On va lire ensemble la parole du Seigneur dans le livre des Actes au chapitre 21, du verset 8 au verset 14. Nous avons un court récit de ce que Dieu a fait, la manière où Dieu a agi pour avertir l'apôtre Paul, mais aussi la détermination de l'apôtre Paul d'aller jusqu'au bout des choses. Je crois qu'il est important pour nous d'être déterminés dans notre engagement avec Dieu. Je dis souvent que quand on passe par les eaux du baptême, là on dit au Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. C'est super, hein, non? On s'est encore réjoui, il y a quelques jours à peine, d'avoir trois personnes qui ont pris cet engagement sérieux devant le Seigneur. Cet engagement qui amène à une mort de son ancienne nature pour une nouvelle nature qui nous fait et nous amène à renoncer à des choses de notre passé, même si ces choses ont occupé une grande place dans notre cœur. Mais si nous devons choisir entre Dieu et ces choses, qui choisissons-nous? Et c'est là que finalement la parole de Dieu nous amène à prendre des décisions. Et tout le long de notre vie chrétienne, nous sommes appelés à prendre des décisions, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes au chapitre 21, il nous est dit ceci à partir du verset 8. « Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. » La première chose, c'est qu'on voit l'apôtre Paul arriver chez quelqu'un avec qui partager un travail pour l'œuvre de Dieu. Il nous parle de Philippe l'évangéliste, cet homme qui était un instrument entre les mains du Seigneur pour accomplir l'œuvre de Dieu. Quel bonheur de pouvoir partager la communion fraternelle. Ce soir, nous aussi, nous sommes au bénéfice de la présence du Seigneur, parce que là où deux ou trois s'assemblent dans le nom du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu est parmi eux. Amen. Et lorsque nous voyons ce récit, nous voyons qu'il y a un moment, ils sont là, ils partagent des choses, il nous fait une description du tableau, ils sont chez Philippe. Philippe, il a des filles qui n'ont pas pris de mari, elles sont restées dignes et propres devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'elles étaient donc vierges et qui prophétisaient. Le Seigneur les avait remplies du Saint-Esprit, elles prophétisaient, elles donnaient des paroles de la part du Seigneur. Et là, d'un coup, il y a un homme qui arrive, Agabus. Quelqu'un qui vient finalement de l'extérieur, qui n'a pas vécu ses premiers jours de communion, ses premiers jours de partage. Et on pourrait se dire, mais pour quelle raison Dieu n'a pas parlé par une de ses quatre filles? Et finalement, il fait venir quelqu'un d'autre qui ne s'est pas levé un matin en disant, maintenant je suis prophète, mais qui était reconnu prophète, donc faisons attention au titre que certains peuvent se donner. Là, c'était des gens qui étaient quand même reconnus pour avoir reçu de la part du Seigneur. Et alors qu'on n'a pas, une description de ce qui a été dit, fait pendant ces quelques jours qu'ils étaient ensemble. Mais certainement, à un moment, Dieu a considéré qu'il fallait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui n'avait pas entendu et qui ne connaissait pas les moindres détails de ce qui avait été partagé entre les uns et les autres pour que cette parole viennent de Dieu et qu'elle ne soit pas confuse par un sentiment ou un ressenti, ou voire même présenter ça comme une prophétie simplement parce que les sentiments pouvaient être touchés. Bien évidemment, l'apôtre Paul savait que Jérusalem, il allait traverser des moments difficiles. Le Seigneur ne lui a jamais caché la réalité. Je vous rappelle que lorsqu'il a été appelé par le Seigneur lui a dit ce qu'il devait souffrir pour lui. Et nous, bien évidemment, nous sommes conscients aussi que le Seigneur nous dit ce que nous avons à souffrir pour lui. J'entends pas d'amen, hein. La parole de Dieu nous dit que si le Seigneur, lui, a subi des choses difficiles et passé par des complications, nous aussi, nous allons les traverser. Donc le Seigneur ne nous a rien caché. Et là, l'apôtre Paul, il voit cet homme, Agabus, un homme reconnu pour être un prophète, qui vient et prend une ceinture, il ne sait pas à qui ça appartient. Parce que la véritable prophétie est celle qui ne s'appuie pas sur la connaissance humaine, mais qui décrit des choses que personne ne pouvait connaître au préalable. Et Agabus, il vient, il prend cette ceinture et il explique par une image que celui à qui cette ceinture appartient, il va être lui-même lié de la même manière à Jérusalem. Alors je me suis dit, en lisant ce texte, c'est vrai que quand on est ensemble, on aime recevoir des paroles de la part du Seigneur, des paroles de consolation, des paroles qui nous encouragent, des paroles qui nous fortifient. Mais sommes-nous prêts aussi à écouter des paroles qui nous avertissent sur les difficultés que nous allons vivre? Et une fois que nous avons entendu ces paroles, quelle est notre réaction? Comment allons-nous agir? En 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21, il dira ceci, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque nous recevons une prophétie de la part du Seigneur, faisons attention à ne pas l'analyser avec nos têtes. Mais laissons le Seigneur agir par le Saint-Esprit et nous expliquer le pourquoi, le comment et le quand. Parce que lorsque nous entendons quelque chose, on a souvent tendance à croire que c'est là, maintenant, tout de suite. Parce qu'on vit dans la précipitation. Et si la réalité, si cette promesse qui nous est faite, si cette parole qui nous est donnée prend du temps, nous ne devrions pas être dans le doute, me dire « Seigneur, fais-moi comprendre, aide-moi ». Alors vous savez, par expérience personnelle, il y a des choses que Dieu nous dit et qu'après il se réalise à distance, presque de plus de 20 ans. Et pendant 20 ans, on a vu cette parole, cette prophétie d'une manière. Et finalement, on ne comprend pas pourquoi elle ne se réalise pas, pourquoi elle ne va pas dans le sens, mais tout simplement parce qu'on n'a pas compris quel était le sens de la prophétie. Et on a besoin à chacun d'entre nous de dire, Seigneur, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, Seigneur, fais poindre ta lumière, Seigneur, viens éclairer mon cœur. La prophétie nous est donnée pour pouvoir finalement passer ces moments obscurs, ces moments où on ne voit pas, où on ne sait pas ce qui nous attend. Mais lui, le Seigneur, il sait toutes choses. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Et la preuve en est, c'est que Dieu avertit au verset 12, il était dit, après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. La réaction humaine, elle est là. La réaction de ces hommes et ces femmes qui aimaient l'apôtre Paul parce qu'ils voyaient en lui cet homme de Dieu, cet homme choisi par Dieu. Bien évidemment, lorsque Paul s'est converti, il le voyait encore comme l'ennemi. Hein. Mais il y a eu un fruit de la repentance de l'apôtre Paul. Il y a eu un temps où l'apôtre Paul a dû faire ses preuves. Et frères et sœurs, nous aussi, nous avons des preuves à faire. Même lorsqu'on se repent, c'est trop facile de dire « je me suis repenti, tout change, allez ». Non, il doit y avoir, la parole de Dieu le dit, c'est pas moi, il y a le fruit de la repentance. Et un fruit, vous m'excusez, ça prend du temps. Ça doit mûrir. Il y a un processus, il doit résister aux intempéries. Parce que si d'un coup on changeait, que on passe d'un état à un autre, oui, on était condamné. Maintenant, on est sauvé par grâce. Amen. C'est immédiat, direct, très bien. Mais la sanctification, elle est progressive. Et lorsqu'on se repent de quelque chose que nous avons fait qu'on n'aurait pas dû faire, il faut maintenant faire preuve d'avoir saisi et de ne plus retomber, parce que le péché couche à nos portes. L'ennemi essaiera toujours de revenir sur les points sur lesquels nous sommes sensibles. Alors que Dieu nous aide à faire preuve de cette véritable transformation dans notre cœur. D'ailleurs, Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et je vais rajouter, puisque c'est écrit, ce qui est parfait. » Amen. Mais il y a besoin d'un changement de mentalité. Parce que ma vieille mentalité m'a amené à vivre dans le péché. Cette nouvelle mentalité qui doit prendre place doit m'amener avant tout à renoncer au péché. Deuxièmement, à résister au malin qui va essayer tout à nouveau de me ramener. Et lorsque j'aurai résisté et que le malin aura fui, je dois rester dans l'humilité de peur de tomber encore. Il y a un fruit. Il y a une œuvre. Et en même temps, quand on reçoit une parole, frères et sœurs, prenons le temps de l'analyser devant le Seigneur, parce que même si ceux qui sont autour nous aiment, ils peuvent parfois nous donner un aiguillage qui n'est pas celui de Dieu. Si nous voyons ces hommes et ces femmes essayer et supplier Paul de ne pas monter à Jérusalem, on pourrait se dire, mais c'est l'effet de l'amour, non ? Qui que ce soit, ce soir, devait entendre que s'il va là-bas, il risque sa vie, on lui dirait, mais n'y va pas. Et c'est la raison qui parle, ou c'est l'esprit qui parle? Lorsque nous sommes en train de donner un conseil à quelqu'un, faisons attention à faire la part entre le sentiment et l'esprit. Et heureusement que l'apôtre Paul était quelqu'un qui était accroché au Seigneur, et il va leur répondre d'une manière particulière. Non ? Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Si vous étiez à la place de l'apôtre Paul ce soir, alors si personne ne vous disait rien, peut-être vous direz, oh, il ne m'aime pas. Hein ? Il me laisse partir dans la difficulté. Il n'y en a pas un qui m'a dit, arrête-toi, n'y va pas. Et si tout le monde disait, mais n'y va pas, elle va me briser le cœur. Alors, c'est bien qu'il y ait des sentiments forts entre nous. Et je dis, Seigneur, donne-nous d'avoir les uns pour les autres des entrailles de miséricorde, d'être capable aussi d'être là et de soutenir celui qui passe ou qui va passer par une épreuve. Mais à un certain moment, il y a quelque chose qui doit être fait. Et ça dépend de la personne qui reçoit la parole. Et je voudrais attirer votre attention sur les propos de l'apôtre Paul. Il dira ceci, « Je suis prêt. » Alors, êtes-vous prêt ? Nous allons prier, mais êtes-vous prêt à ce que le Seigneur va dire à votre cœur ? Est-ce que vous êtes vraiment prêt ? Ou est-ce qu'on est prêt seulement dans la mesure où ce que le Seigneur nous dit va dans le sens qui nous convient ? Si le Seigneur me dit que tout va bien, je suis prêt. Mais si le Seigneur me dit tu dois aller te battre, je ne suis pas prêt. Mais regardez, je suis prêt. Et ça va loin. Non seulement à être lié, mais encore à. Êtes-vous prêt encore à ? Parce qu'on peut se dire, allez, on est prêt à prendre des mauvaises nouvelles, on a l'habitude. Mais là, il dit, je suis prêt encore à mourir à Jérusalem, non pas pour tout et n'importe quoi, pour le nom du Seigneur Jésus. Alors ce soir, je ne veux pas vous encourager à mourir, c'est pas ça. Mais la véritable question, à quoi êtes-vous prêt pour le nom du Seigneur ? Un jour, il y avait un problème entre deux personnes. Et dans la discussion, je dis à un des deux, je dis, tu sais, il va falloir que tu prennes ton courage demain et tu ailles demander pardon. Mieux mourir. Vous avez peut-être déjà entendu des phrases comme ça, non? Mais si le Seigneur te demande de le faire, et si le Seigneur ce soir vous demandait de faire quelque chose, est-ce que vous allez mettre des oppositions ou vous allez dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne? D'ailleurs, vous avez vu, ils ont essayé jusqu'au point où ils ont dit, comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Sommes-nous prêts ce soir à dire, Seigneur, que ta volonté se fasse? Des fois, Dieu nous demande des choses particulières. Des fois, le Seigneur nous met face à quelque chose que nous devons régler. Quelque chose que nous avons besoin de mettre en ordre avec le Seigneur, autrement on ne peut pas aller plus loin. C'est inutile, tu peux faire ce que tu veux, tu n'iras pas plus loin tant que tu n'as pas réglé ton problème, tu n'iras pas plus loin, je le répète, si tu as un souci avec quelqu'un, tu n'iras pas plus loin, tu as beau faire ce que tu veux, Dieu t'empêchera d'aller plus loin et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais le fait de régler le problème et d'obéir à Dieu, d'être sensible à la voix du Seigneur, ça t'ouvrira les portes et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Alors l'apôtre Paul est au courant de tout ça, il sait en qui il a mis sa confiance. Est-ce que toi, tu sais en qui tu as mis ta confiance? Est-ce que tu sais que finalement, lorsque tu as prononcé ton engagement avec Dieu, tu seras mon sauveur? Et là, c'est Amen. Mais tu seras mon Seigneur, dire à quelqu'un, tu es mon Seigneur, ça veut dire que tu as autorité sur ma vie et ce que tu me dis, je le fais. Et si ce soir, le Seigneur, alors que peut-être tu es dans l'impossibilité de te lever physiquement, et le Seigneur te dit, lève-toi et marche, ben tu le fais. Amen. Et là, tu dis, ah yes, c'est un miracle. Mais si le Seigneur te demande de te lever dans ton âme et de redresser les choses qui ne vont pas, ou autre chose, fais-le, parce que c'est aussi un acte de foi et la preuve que tu restes enseignable de la part du Seigneur. Et lorsque ces choses, elles se débloquent, lorsque ces situations, elles sont finalement réglées devant le Seigneur, mais le Seigneur est bon. J'aimerais lire encore deux textes. Le premier en Hébreux 10, 35 à 39. Il dira, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. C'est après, hein. D'abord, ça commence par l'obéissance et après, il y a la récompense. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Alors ne prenez pas de retard. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne encore ce soir, frères et sœurs, d'avancer avec le Seigneur, même si on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande cela. Cette situation peut être un blocage pour nous, pour notre vie, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Et il veut finalement nous permettre de grandir, de monter d'une marche. Non ? Vous vous rappelez quand vous étiez petit ? Oui ou non? L'âge. Vous vous rappelez quand vous êtes devenu parent? On va revenir un peu, vu que vous souffrez d'Alzheimer. Un enfant, quand il commence à marcher, c'est magnifique. Et le jour où finalement, il n'a plus besoin de personne. Les parents, ils se disent, oh là là, allez, ça y est, il a trouvé l'équilibre, c'est super. Et après, quand vous le voyez courir dans tous les sens, lui, il a l'impression d'avoir gagné le loto. Non? Vous cachez tout ce qui pourrait être cassé, mais lui, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a monté d'un échelon. Et après, on accompagne notre enfant à chaque échelon. Le premier jour de l'école, on prend des photos. Hein? C'est les parents qui pleurent. Hein, Elisabeth ? Et après, une fois que l'enfant a réussi ses études et qu'il passe son permis de conduire, hein, et on est heureux. Et à chaque étape, et au mariage, et ceci et cela. Et vous ne croyez pas que Dieu, en tant que Père, veut se réjouir de voir votre vie avancer avec lui, étape après étape. C'est des choses qui sont nécessaires, c'est des choses qui sont normales. Nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. Et si ça passe par l'apprentissage, mais Dieu soit béni. Parce que ce qu'on n'apprend pas tout de suite, souvent c'est la vie qui va nous l'apprendre. Et des fois, la leçon, elle est dure. Non ? Alors que Dieu nous aide à comprendre. Et ce texte dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et ce soir, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire, quoi que le Seigneur va te dire, quoi que le Seigneur te dise, quoi que le Seigneur va te révéler, ne te retire pas, mais dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Marc 3, 35, dernière référence, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. On va prier. On va remettre au Seigneur nos besoins de ce soir, mais aussi les besoins de ceux qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance. J'ai reçu la demande de prière d'une femme. Elle a été touchée par...